Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La Bible, rares sont les hommes de notre temps à la voir comme livre de chevet, long, souvent difficile d'accès. Les livres de la Bible, hormis peut-être les évangiles, nous paraissent la plupart du temps bien rébarbatifs. Et si pourtant ces livres recelaient en fait des trésors de sagesse pour nos vies? Et si les personnages qui peuplent les Écritures étaient des sortes de figures tutélaires ou des archétypes pouvant nous éclairer sur nos vies, voire en révéler leur profondeur insoupçonnée? Pardon, une émission Vivante Église, je m'étouffe. Ce matin, sur le prophète Jérémie, intitulé « Jérémie, champion de la conversion », avec comme invité ce matin le père Cyprien Comte. Vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, vous êtes un des prêtres du séminaire Saint-Cyprien ici, et auteur d'une thèse en théologie biblique sur Jérémie. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, donc défi ce matin, puisqu'il s'agit de faire rentrer dans les Écritures et découvrir ce prophète. On a fait une émission, alors c'est pas un prophète, mais comme ça, sur Jacob. Très belle émission sur Jacob, où probablement, enfin j'avais eu des retours d'auditeurs qui me disaient qui m'avaient dit qu'ils avaient compris qu'on pouvait lire l'Ancien Testament et y trouver quelque intérêt. Alors Jérémie, commençons par la présentation. Comment vous nous présenteriez celui que l'on dit être l'un des quatre grands prophètes, en tout cas pour les catholiques, de l'Ancien Testament?
Après Isaïe, en effet, la Bible hébraïque nous propose de lire Jérémie, si du moins nous lisons dans l'ordre, et ensuite c'est le prophète Ézéchiel. Alors à vrai dire, dans la Bible hébraïque, il y a seulement trois grands prophètes, mais vous avez raison de dire que les Bibles catholiques, elles ont aussi le prophète Daniel. Donc Jérémie, c'est l'un des plus longs livres de la Bible, puisqu'il y a 52 chapitres. C'est assez mouvementé, non seulement le livre est lui-même mouvementé, mais l'histoire de Jérémie est très agitée, dans une époque troublée, autour de l'an 600, alors à vrai dire 600 avant Jésus-Christ bien sûr. On considère souvent qu'il a prophétisé, exercé le ministère prophétique pendant environ une quarantaine d'années, entre 627 et 587, donc avant Jésus-Christ, la grande date de 587 est celle de la prise de Jérusalem par les armées babyloniennes, et la date du début de l'exil à Babylone. Donc Jérémie exerce...
Fils d'un grand prêtre, donc.
C'est ça, fils d'un prêtre de Anatot, un village qui est à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Quand on est en Terre Sainte, là-bas, sur la route au nord de Jérusalem, on voit le panneau de Anatot. Quand vous montez vers le nord, vous voyez Anatot à droite. Eh bien voilà, Jérémie est sans doute de cet endroit-là. Une famille de prêtres, même si on n'a pas tellement de traces de l'exercice d'un ministère de prêtre, donc au temple pour les sacrifices. Par contre, très jeune, Jérémie est saisi par Dieu, qui en fait son prophète. Il lui donne un message difficile à porter, un message de conversion. Il lui donne une mission complexe, une mission douloureuse, mais Dieu le soutiendra toujours. Et c'est merveilleux de lire ce livre de Jérémie.
Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus de sa famille? Parce que j'ai cru comprendre que sa famille ou son clan, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, était un petit peu banni. Qu'il y avait eu des histoires dans sa famille, et donc c'était on va dire la tribu la plus en vue ou la famille la plus en vue à l'époque.
Ah, alors à vrai dire, il descend peut-être du prêtre Ébiatar, et ce qui expliquerait donc le fait qu'il habite à Anatot, et on dit que c'était un homme qui avait été exclu du sacerdoce du Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus accomplir le ministère au temple, parce que en fait il était intervenu malheureusement dans le mauvais sens au niveau politique, c'est-à-dire qu'il avait soutenu le rival du jeune Salomon. On sait aussi sur la donc c'est peut-être un ancêtre de Jérémie, et on sait aussi qu'ils avaient quelques biens, notamment on voit Jérémie dans un épisode étonnant qui reçoit, alors que les armées de Babylone encerclent déjà Jérusalem, Jérémie reçoit l'ordre de Dieu d'acheter, dans un geste symbolique, d'acheter un champ à l'un de ses cousins qui se trouve derrière la ligne de front. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu annonce une espérance en disant « Tu vas aller acquérir un bien dont il est possible que tu tires quelques profits dans l'avenir. » Voilà, effectivement, une manière de dire au peuple « Tout n'est pas fini, même si politiquement, on dirait que le royaume de Juda touche à sa fin. Et c'est en effet à cette époque-là que nous assistons, la fin du royaume de Juda, du royaume de Jérusalem.
Alors, ce qui est fort, c'est que à la lecture de ce récit, j'ai vu dans les quelques documents que vous m'avez envoyés, on peut essayer de faire un peu un portrait de cet homme. Entre autres, dire quelques mots de son caractère. Jérémie était un timide, ai-je lu. Alors, ça corrobore ce qu'on peut lire dans le récit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du caractère de Jérémie, vous qui avez passé du temps avec lui indirectement, qu'est-ce qui en ressort?
Vous savez comment c'est, les gens qui font de la recherche, quelquefois, savent tout sur presque rien. Alors, je ne sais pas tout, mais c'est effectivement seulement sur 36 versets que j'ai travaillé, ce qui fait un chapitre et demi du livre, donc il en reste 5. Et demi que je ne connais pas très bien, mais on peut dire quand même quelque chose du récit de la vocation de Jérémie, où lui-même dit, vous conviendrez que c'est un petit peu ennuyeux pour un prophète, « Je ne sais pas parler ». Je ne sais pas parler. Pour quelqu'un qui va avoir à porter la parole de Dieu, on dirait aujourd'hui que c'est un empêchement d'irriment, que c'est une inaptitude de fond. Il dit « Je ne suis qu'un enfant ». Autant dire à Dieu qui l'appelle à porter sa parole et qui lui dit « Je t'ai consacré avant ta sortie du sein maternel », Jérémie lui dit « Mais enfin, je suis complètement incapable. » Comme Moïse d'ailleurs, rappelez-vous, Moïse disait à Dieu qui disait « Tu vas trouver Pharaon, va trouver mon peuple, tu feras sortir le peuple d'Israël d'Égypte. » Et Moïse dit « Mais j'ai la bouche pâteuse, comment est-ce que je vais faire? Personne ne va m'écouter. »
Et Moïse était bègue, c'est ça?
Alors,
c'est ce qu'on dit, non?
Moïse, on ne sait pas exactement quel défaut il avait, en tout cas, il s'estimait incapable. À vrai dire, quand on lit le livre de Jérémie, on trouve qu'il y a beaucoup de poésie, beaucoup de belles choses, d'images extrêmement riches, et c'est un homme qui sait écrire. Alors, on pense même d'ailleurs, c'est pas le cas pour tous les personnages bibliques, on pense même qu'un certain nombre des oracles du livre de Jérémie remontent vraiment au prophète Jérémie. Notamment, on en reparlera sans doute, ce qu'on appelle les confessions. Mais en tout cas, quand Jérémie dit à Dieu « Je suis un enfant », c'est-à-dire « je suis trop jeune », qu'est-ce que Dieu lui répond? C'est le chapitre 1 du livre de Jérémie. La réponse de Dieu est au verset 7. « Le Seigneur me dit, ne dis pas « je suis un enfant », car, et c'est la mission de combattant que Dieu va confier à Jérémie, « car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras, n'aie pas peur devant eux. » Et Dieu fait un geste pour fortifier cet homme timide qui va avoir la mission de, entre guillemets, de renverser des forteresses. Et le texte continue en disant « Le Seigneur avança la main et lui fit toucher ma bouche, et le Seigneur me dit « Voici que j'ai placé mes paroles dans ta bouche. » Alors il lui annonce qu'il va avoir des combats à mener, qu'il va être opposé notamment aux gens de Juda, c'est-à-dire aux gens de son peuple, c'est au verset 18, « Voici que moi, c'est toujours Dieu qui parle, voici que moi je fais de toi aujourd'hui une ville forte, une colonne de fer, un rempart de bronze, face à tout le pays. » Et il détaille à qui Jérémie va être envoyé, « Roi de Juda, ses chefs, ses prêtres et le peuple du pays, ils te combattront mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. » Et on comprend que si Dieu vient à la rescousse, Dieu promet, comme d'ailleurs bien souvent à ses prophètes et jusqu'au Nouveau Testament, pensez donc à ce que dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie, qui se voit chargée d'une mission comme on n'en a jamais vu, et l'ange lui dit comme première parole, « Ne crains pas ». Eh bien, c'est ce que Dieu dit aux prophètes, c'est ce que Dieu dit aux apôtres, c'est ce que Dieu dit à chacun de ceux qui l'appellent.
J'ai vu aussi que, à la lecture du livre de Jérémie, on pouvait dire que c'était un homme qui avait un certain amour de la nature. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté aussi? Est-ce que vous pouvez nous citer des passages ou nous expliquer pourquoi?
Eh bien, c'est merveilleux. Et je crois que pour le siècle où nous sommes, tout le monde sera d'accord pour dire que ça nous rend Jérémie encore plus sympathique. Ces oracles, dit un connaisseur, sont toujours parsemés d'images rurales et de rêves villageois. Il aime les arbres. Il aime l'eau, les fontaines, la neige du Liban, le chant des oiseaux. Alors il faut rappeler que dans ce premier chapitre que nous avons évoqué, il y a une vision que Dieu donne et qui semble interrompre le récit de la vocation de Jérémie. Et en fait, il lui dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Et Jérémie répond « Je vois une branche d'amandier. » Alors voyez, nous sommes au printemps. C'est merveilleux parce que peut-être que les amandiers sont déjà et encore en fleurs. En tout cas, l'amandier est réputé être le premier ou l'un des premiers arbres qui fleurissent. Et alors, Dieu dit à Jérémie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il y a un jeu de mots en hébreu. une branche d'amandier, c'est très très proche d'une branche de veilleur. D'ailleurs, un certain nombre des Bibles traduisent « je vois une branche de veilleur ». Et Dieu explique, et donc Jérémie non seulement voit un arbre au printemps qui fleurit, mais en plus Dieu lui donne de comprendre « c'est bien vu, dit-il, car je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Et donc on a vraiment cette, je ne sais pas si on peut dire cette vie dans la nature, sans doute que Anatot devait être un petit village, et Jérémie connaissait, et j'ai eu cette grâce-là de vivre à peut-être 15 kilomètres de cet endroit, dans la campagne, un peu plus au nord encore. Effectivement, il faut bien dire que les collines du nord de la Judée, au moment du printemps, dès qu'il y a une goutte de pluie, deviennent verdoyantes, les arbres se couvrent de fleurs quand c'est la saison, et vraiment c'est extraordinaire. On comprend que Jérémie était sensible, et nous le sommes comme lui.
Donc, voilà, on sait qu'il a existé, on sait de où est-ce qu'il a vécu, le fils de qui était-il. Quelques mots sur son caractère, vous avez dit donc, en quelques mots aussi quelle était la mission que Dieu allait lui confier. Est-ce que vous pouvez recontextualiser un petit peu à quel moment, enfin nous avez dit quand, mais quel est le contexte politique et religieux de l'époque dans lequel Dieu va demander à cet homme de se lever et de dire haut et fort ce qu'il n'a pas envie de dire?
Il y a au moins deux points qui sont importants à connaître sur l'histoire de ce tournant du 6e siècle, si vous voulez. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, a lieu une importante réforme religieuse qui est attribuée au roi Josias, et c'est ce qu'on appelle, en termes historiques, la réforme deutéronomiste. C'est-à-dire qu'on découvre le rouleau de la loi dans le temple, c'est le deutéronome, la deuxième loi, selon le terme grec, et Josias va enclencher toute une réforme religieuse en voulant centraliser le culte à Jérusalem et surtout en demandant, en exigeant du peuple qu'il observe à nouveau cette loi, la Torah, la loi du Seigneur que l'on avait oubliée. Donc, réforme religieuse de retour à l'alliance qui avait été quelque peu délaissée. Mais il faut aussi parler politique, vous avez raison. En effet, la période est extrêmement troublée. Ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire antique savent que vers la fin du 8e siècle, le royaume d'Israël, le royaume de Samarie, est tombé sous les coups des armées assyriennes. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est plus la Syrie, la grande puissance de l'époque. Au nord, il y a Babylone, désormais, même s'il est vrai qu'il y a aussi l'Égypte au sud. Eh bien, Juda, le royaume de Juda, le royaume de Jérusalem,
est menacé, vit Jérémie, en fait,
est menacé, et va tomber sous les coups de l'empereur néo-babylonien qui est Nabuchodonosor. Et pour être un petit peu précis, on parle de deux exils successifs, en 597 avant Jésus-Christ et en 587, où Nabuchodonosor déporte d'abord une partie des élites et ensuite sans doute une partie plus importante de la population. Alors,
on parle de 10 000 personnes, c'est ça?
Les chiffres que donne la Bible sont sans doute de cet ordre-là. On ne sait pas exactement.
Qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait... Enfin, moi, j'ai lu qu'il y avait 15 000 habitants à Jérusalem. Donc,
alors, c'est ça.
C'est considérable. C'est...
On n'est pas complètement sûr de l'exactitude des chiffres qui ont aussi une valeur symbolique. C'est-à-dire que dire Nabuchodonosor déporta 10 000 personnes, c'est autant, c'est pour dire Nabuchodonosor fit une déportation énorme. Et d'ailleurs, Jérémie, passé la première partie de son ministère où il disait, mais on y reviendra sans doute, il disait au peuple « Convertissez-vous, car vous pourriez éviter d'être livré à Babylone ». Une fois qu'il a pris conscience, on a ça au chapitre 19 hein, sans doute du livre, où il brise une cruche en public comme pour dire « C'en est fait, c'est terminé, désormais le roi de Babylone va conquérir Jérusalem, il n'est plus temps d'essayer d'éviter ce châtiment divin, mais il faut se soumettre au roi de Babylone et accepter l'exil et s'installer. » On y reviendra peut-être si vous voulez.
On y reviendra. Une dernière question avant qu'on fasse une première pause pour cette rapide présentation. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes intéressé au prophète Jérémie?
Ah oui. Voilà. Alors, à vrai dire...
Pourquoi est-ce qu'on peut se prendre de passion pour cet homme et...
Je ne suis pas sûr d'être encore assez passionné, mais je dois dire que alors le Seigneur passe par des voies un petit peu variées. Quand je suis allé étudier à l'Institut biblique des Jésuites à Rome, c'était 2006... Je savais qu'au retour, il faudrait sans doute enseigner les prophètes à la faculté de théologie à l'Institut catholique. Parce que le doyen me l'avait dit. Voilà, ça va être le moment pour toi. J'ai donc dit, il va falloir que j'étudie un petit peu de près les prophètes, et j'ai pu faire le mémoire de fin de cycle sur les prophètes. Seulement, le cours que j'avais pu suivre était celui sur le prophète Jérémie, parce que ben, il fallait qu'on étudie un petit peu toute la méthodologie biblique, et puis différents passages de la Bible. Et à vrai dire, le professeur italien, un salésien nommé Barbiero, qui enseignait les prophètes, le cours où je pouvais y aller, le bon semestre, a commencé à parler de Jérémie au chapitre 18. Et donc, en fait, j'ai fait ma thèse en particulier sur le début du chapitre 18 de Jérémie.
Donc, c'est-à-dire que
c'est lui qui m'a choisi.
Ça ne vous intéressait pas particulièrement ?
Je connaissais pas tellement plus. Je trouve que c'est génial de lire le prophète Jérémie, mais il m'a été plutôt donné par les circonstances que choisi. J'avais pensé que je travaillerais sur Ézéchiel, et puis pour différentes raisons, le doyen de la faculté biblique à Rome m'a dit « Écoutez, il me semble que pour faire votre travail de fin d'études, il est plutôt sage de travailler sur Jérémie. »
Alors, comment vous résumeriez l'intérêt de Jérémie, peut-être, pour finir?
Alors, c'est un univers, le prophète Jérémie. Je crois que la force de la vocation prophétique est extrêmement bien rendue par ce prophète qui a essayé de s'y soustraire. C'est assez remarquable de voir que quelquefois dans notre vie, nous avons une mission et que on se demande si on pourra le faire. Et Dieu nous dit « Je te confie cette mission et je te donne la force ». Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, spirituellement et puis dans notre vie de tous les jours, est très, très fort. Il y a aussi, je dirais, la tristesse et la mélancolie de Jérémie qui sont quand même peut-être difficiles à lire et à accepter. En une époque, on voudrait que tout soit positif et beau et agréable, mais c'est quand même la réalité de la vie aussi, de vivre des choses dures, et je crois que Jérémie en a vécu beaucoup.
On fait une première pause et on vous retrouve. Cette émission donc, qui est en vue d'une session à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, les 12 et 13 avril prochains, sous le titre « Jérémie, champion de la conversion », titre repris pour cette émission.
Emmanuel Pella.
Jérémie, champion de la conversion, c'est donc le titre de l'émission de ce matin, donc émission sur le prophète Jérémie, rien que cela, avec Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse, l'un des pères du séminaire de Toulouse, et auteur d'une thèse donc sur Jérémie. Ça veut dire quoi, un des pères du séminaire, juste en deux mots ?
Eh bien, à vrai dire, nous sommes une équipe de prêtres chargés de la formation initiale des candidats au ministère de prêtre. Donc nous avons actuellement 28 séminaristes de toute la grande région, puisque nous allons à peu près de Nîmes à Dax, et que actuellement nous avons aussi des Martiniquais et un Guadeloupéen dans le séminaire. Et donc il y a des éducateurs qui sont à la fois enseignants, mais aussi chargés de la vie de la maison, avec ces hommes qui sont majeurs, hein, donc ils sont pas sous notre tutelle. Mais c'est la tradition maintenant, depuis un petit peu plus de 300 ans en France, qu'on essaye de prendre un vrai temps pour la formation des prêtres. Et nous, à vrai dire, nous avons beaucoup de... Enfin, j'ai vraiment une belle, ça c'est une belle chance de pouvoir travailler dans cette équipe et dans ce contexte, tout près de la radio.
Alors Jérémy, on va essayer de creuser trois pistes majeures donc qui ressortent de ce livre donc du prophète Jérémy. Les dangers de l'idolâtrie, je le dis par pédagogie, l'amour jaloux de Dieu qui déjà se manifeste comme père dans l'Ancien Testament à cette occasion comme en d'autres, l'importance de la conversion, donc les dangers de l'idolâtrie, l'amour de Dieu et l'appel à la conversion, et Dieu et la violence, parce que c'est vrai qu'il y a des passages comme d'autres dans l'Ancien Testament qui peuvent un peu nous rebuter aujourd'hui. On a du mal à se plonger dedans parce qu'on a l'impression que ça donne une image d'un Dieu qui n'est pas celui que l'on essaye de chercher. Alors si on commence par les dangers de l'idolâtrie, je lirai juste le début du chapitre 3 pour montrer comment Dieu, à ce moment-là, par Jérémie, parle de son peuple. « Si un homme répudie sa femme et que celle-ci le quitte et appartient à un autre, a-t-il encore le droit de revenir à elle ? N'est-elle pas totalement profanée cette terre-là ? Et toi qui t'es prostituée à de nombreux amants, tu prétends revenir à moi, oracle de Yahvé. Lève les yeux vers les monts chauves et regarde. Où ne t'es-tu pas livré ? Tu étais là pour eux le long des chemins. » Etc, etc. Bref, Dieu parle de son peuple comme d'une prostituée, tout simplement. Que dire de ces admonestations très, très cash à l'égard des propos que l'on met dans la bouche de Dieu.
C'est vrai que les mots peuvent paraître choquants et les prophètes ne sont pas avares de ces paroles parfois crues. Dans Jérémie, au chapitre 2, déjà, vous voyez, chapitre 2, verset 8, on a « Les prophètes ont prophétisé par Baal ». À qui est-ce que ça fait penser ? Ça fait penser au royaume d'Israël, à l'époque où il était encore unifié, au 9e siècle, et au grand combat que le prophète Élie avait mené contre les prophètes du Baal. On se rappelle l'épisode terrible au Mont Carmel, et on aurait pu penser que les déboires d'Israël que les prophètes attribuaient notamment à son idolatrie auraient pu les aider à revenir au Dieu vivant, mais voilà, le peuple continue. On considère d'ailleurs que pendant longtemps, et sans doute encore jusqu'à l'époque de l'exil, avec, il est vrai, au 6e siècle, Israël et Juda est exilé à Babylone, environné par des païens. Il n'est pas tellement étonnant qu'il y ait une contamination par de telles pratiques. Alors en tout cas...
Alors qu'est-ce que ça veut dire, juste en quelques mots, l'idolâtrie ?
L'idolâtrie, rappeler, c'est...
Et là, en l'occurrence, ils sont idolâtres de quoi à cette époque ?
Vous savez, une idole, c'est une image mensongère d'une divinité qui n'en est pas une. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on dit idole, on pense à autre chose.
Pour cette jolie.
On pense aux idoles du showbiz ou peut-être du sport. Mais effectivement, c'est l'occasion de rappeler que ces gens-là ne sont pas des dieux. Eh bien, c'est une bonne partie du message de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, du Premier Testament. C'est les prophètes rappellent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On se rappelle dans le Deutéronome, au chapitre 6... C'est le Shema Israël que les Juifs pieux récitent tous les jours, tous les jours. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et quand on lit les commandements de Dieu dans la Torah, dans le Pentateuque, on voit bien que déjà on interdit, et si on interdit, c'est sans doute que ça se produisait, on interdit d'adorer d'autres dieux. Tu ne rendras aucun culte à un autre Dieu que moi, dit le Seigneur. Déjà bien avant les prophètes, en tout cas dans l'ordre biblique, mais les prophètes doivent le rappeler. Alors les Baals sont ces idoles, il y a des pieux sacrés,
alors,
il y a des statues.
À l'époque de Jérémie, quelles sont ces idoles en fait ? C'est quoi ?
Alors on n'a pas forcément toutes les descriptions que l'on voudrait, pardon. Il est question parfois, est-ce que c'est dans Jérémie, je crois, d'offrir des gâteaux à la reine du ciel?
Si, c'est dans Jérémie, je l'ai
voilà,
dit.
Voilà, ça c'est dans Jérémie, effectivement. Et alors, il est question aussi d'un lieu qui est un endroit où on brûlait les ordures, sans doute, et en tout cas, qui s'appelle le Tophet, et qui est un endroit où, semble-t-il, les gens de Juda allaient, dans des circonstances particulières, offrir en sacrifice un de leurs enfants. Et alors Jérémie s'élève vigoureusement contre cette pratique en disant « Vous ne devez pas offrir vos enfants, et d'ailleurs vous ne devez pas en particulier les offrir en sacrifice aux idoles. » Voilà, c'est particulièrement scandaleux de penser que les idoles, c'est une tentation ancienne pour les Israélites, hein, depuis qu'ils se sont installés dans la terre de Canaan, ils ont été tentés de rendre culte aux Baal, qui étaient les dieux de la fertilité, aux Asherah, et en fait ils avaient l'impression peut-être que Dieu, le Seigneur, le Dieu qui s'était révélé à Moïse et au Père, dans le désert et au temps des patriarches, en fait, était plus un dieu des nomades. Mais en fait, déjà, le prophète Osée dit cela au 8e siècle, Jérémie reprend le refrain en disant vraiment « c'est un adultère que d'aller vers d'autres dieux, que de mettre sa confiance dans quelqu'un d'autre que le Seigneur. »
Alors on verra peut-être dans la dernière partie les échos que ça peut trouver à notre époque ou dans nos vies, parce que parfois quand on lit ces passages de l'Ancien Testament, on se dit que ça pouvait être justifié ou que Dieu voilà, a des manières assez violentes ou caches, comme diraient d'autres, de parler à leur peuple, mais qu'on peut peut-être trouver des ponts avec notre époque et nos vies. Pour l'instant, on essaie un peu de se plonger dans les grands axes de ce prophète Jérémie. Le deuxième point, c'est à la fois l'amour jaloux de Dieu et l'invitation à la conversion. Alors juste sur l'amour jaloux de Dieu, on se dit parfois que, en fait, le vrai visage de Dieu aura été révélé par Jésus, un Dieu qui est un père, que Jésus va appeler jusqu'à Abba, Papa. On s'est assez connu des croyants. Mais il y a des traces déjà dans l'Ancien Testament, et c'est le cas, entre autres, dans Jérémie. J'ai lu donc en 3:19. Et moi qui m'étais dit comment te placerais-je au rang des fils, je te donnerai une terre de délices, héritage le plus précieux d'entre les nations. Je me disais, vous m'appellerez mon père et vous ne vous séparerez pas de moi. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette révélation de qui est Dieu présent dans l'Ancien Testament et dans le livre de Jérémie?
C'est vrai que la tradition juive, qui donc, par définition, ne s'appuie pas d'abord sur l'Évangile, insiste pas mal sur cette figure de Dieu comme Père. Et dans les prières du judaïsme, on trouve souvent cette mention de Dieu comme Père. On le trouve aussi dans tel ou tel psaume. Jérémie, lui-même, n'est pas avare de telles expressions. Alors, dans les chapitres 30 et 31 sont considérés comme un peu une exception dans le livre de Jérémie parce qu'il parle d'espérance, alors qu'en fait, il faut bien avouer que sur les 50 autres chapitres, ce n'est pas la pensée qui vient le plus souvent en tête. Mais dans ce chapitre 31, vous pouvez lire l'annonce du retour de l'exil. Alors c'est au verset 8, Dieu dit « Moi, je vais les faire venir du pays du nord ». On comprend qu'il s'agit de Babylone. « En pleurs, ils étaient partis, dans les consolations, je les ramènerai » à la fin du verset 9, « car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Alors en fait, ça fait penser aussi à des choses qui avaient été peut-être encore plus développées par d'autres prophètes. J'avoue que le prophète Osée, qui prophétisait dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël au 8e siècle, a un passage extraordinaire. Alors Osée est souvent connu pour avoir développé l'image du mari jaloux qu'est le Seigneur vis-à-vis de son peuple Israël, qui est aussi présenté comme une épouse infidèle. Donc en fait, Jérémie n'invente pas ce motif. Mais Osée, au chapitre 11, a un passage extraordinaire qui dit la tendresse de Dieu, et on a cette image qui parlera beaucoup aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents, avec le commencé au début du chapitre 11 d'Osée, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et ils étaient comme un enfant. Je les prenais par les bras pour leur apprendre à marcher. Je les soulevais tout contre ma joue. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Vous voyez cette image du père, qui a une attitude presque maternelle d'ailleurs dans Osée, du père qui prend soin de son enfant et qui malheureusement ne reçoit en retour qu'ingratitude. C'est quelque chose qui est assez constant dans l'histoire d'Israël, et Jérémie fait le reproche au peuple d'être un fils ingrat, une fille qui s'est éloignée, mais que Dieu va venir chercher, que Dieu va faire revenir, à qui Dieu va donner une possibilité de conversion.
Alors la conversion, on y vient, c'est donc presque, on va dire, à chaque ligne dans le livre de Jérémie, on a l'impression de lire en fait quelqu'un qui pousse un énorme hurlement à l'adresse du peuple, l'invitant à revenir vers Dieu, et on y reviendra peut-être après, ces derniers points de cette deuxième partie, expliquant quelle menace pèse sur sa tête, donnant l'impression qu'en fait Dieu va les châtier. L'appel à la conversion, alors il y a plein de passages à citer. Je vais juste en citer un qui m'a frappé en tout cas dans l'expression « Circoncisez-vous pour Yahvé, ôtez le prépuce de votre cœur, gens de Juda et habitants de Jérusalem, sinon ma colère jaillira comme un feu, elle brûlera sans personne pour éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Circoncisez-vous pour Yahvé, ôtez le prépuce de votre cœur. » Dites-nous quelques mots de cet appel à la conversion.
Vous savez ce que c'est que le rite de la circoncision dans l'alliance avec Abraham déjà ? Eh bien, c'est précisément la marque dans la chair que le peuple est consacré à Dieu. Et donc, il y a une marque, mais évidemment, il y a des stipulations à l'alliance. Il ne suffit pas de... je prends une image, vous voyez, il ne suffit pas d'être baptisé pour être chrétien, il ne suffit pas d'être... En fait, il suffit peut-être d'être circoncis pour être juif, mais enfin, pour vivre en juif, pour vivre en chrétien, ben, il faut vivre selon les commandements de Dieu. Alors, c'est bien cela que Jérémie demande au peuple. Retrouvez l'alliance. Vous savez, on a quelque chose comme ça dans l'Apocalypse. Il y a une lettre où il est question de retrouver la ferveur première. Et quand Jérémie annoncera, je crois que nous y reviendrons, une nouvelle alliance, c'est certainement pas pour oublier l'ancienne, mais c'est pour lui redonner un souffle nouveau et pour accueillir l'Esprit de Dieu qui permet de vivre selon ses volontés. Alors en fait, quand vous avez parlé de conversion, le mot est très important. Il y a en fait le verbe « se convertir », c'est le même en hébreu que le verbe « revenir ». Et en fait, ce verbe est parfois un petit peu connu. C'est le verbe « shuv », donc qui est extrêmement utilisé dans la Bible hébraïque, notamment parce qu'il a un sens physique de revenir à un endroit d'où l'on était parti ou dans une autre direction, mais aussi parce que c'est devenu l'un des principes majeurs du judaïsme que cette « teshuva », ce retour, la conversion. Voilà, alors... Dieu invite par la voix de Jérémie le peuple à revenir. Alors peut-être que si vous voulez, on pourrait regarder un tout petit peu au chapitre 18. Il y a une invitation.
L'histoire de potier.
Il y a l'histoire du potier, mais en fait, Dieu donne l'explication de la vision du potier en disant...
Jérémie a une vision d'un potier, c'est ça ?
Alors Dieu dit à Jérémie, descends à la maison du potier. Donc c'est-à-dire que vraiment, il lui dit, va concrètement. On dit que Jérémie était sans doute sur le mont, peut-être la montagne du Temple, en tout cas sur une des collines de Jérusalem, et qu'il descend. On pense que les ateliers des potiers, évidemment, pour des raisons pratiques, avaient besoin d'être un endroit où il y avait plus facilement de l'eau qu'au sommet d'une colline. Et donc, il descend à l'atelier du potier, et là, donc c'est chapitre 18, « Voici qu'il travaillait au tour. Et quand le vase qu'il faisait était manqué, comme il arrive à la glaise sous la main du potier, il en refaisait un autre, selon qu'il lui plaisait de le faire. » Donc Jérémie voit quelque chose qui est le travail d'un artisan, le spectacle qu'il pouvait voir dans sa vie quotidienne. Mais, en fait, le spectacle dit ici la capacité du Seigneur à conduire l'histoire de son peuple. La conduite providentielle, si vous voulez, que Dieu peut donner à Israël. Et il explique justement cette vision. Dieu explique lui-même « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Oracle du Seigneur. Oui, comme la glaise dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. On a vraiment l'impression que Israël est soumis à la volonté de Dieu qui peut faire de lui un bon vase. Et si jamais, comme dans l'atelier du potier, si jamais le vase est parfois manqué, eh bien, tant que l'argile, tant que la glaise est encore fraîche, le potier peut faire une boule d'argile avec son vase et le refaire jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat escompté. C'est très optimiste comme vision. Malheureusement, la suite du chapitre, la suite du passage en particulier, est extrêmement différente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on garde le fait que Dieu se conduit en fonction de ce que fait le peuple,
Mais le peuple n'écoutera pas.
Le peuple n'écoutera pas. Alors c'est assez étonnant parce qu'il dit, voilà, si une nation, alors c'est au chapitre 8, si une nation contre laquelle j'ai parlé revient, c'est ce verbe chouf, se convertit, de sa méchanceté, alors, dit Dieu, c'est très étonnant, j'ai un petit peu travaillé là-dessus, alors je me repens, dit Dieu, du mal que j'avais projeté de lui faire. C'est presque choquant pour nous, vous voyez. Et en même temps, nous comprenons que Dieu, et c'est fondamental, Dieu est prêt à adapter ses projets à la conduite du peuple. Je trouve ça prodigieux et c'est vraiment une belle invitation à la responsabilité personnelle à l'époque pour Israël et puis pour tous les lecteurs de la Bible aujourd'hui. Malheureusement, ça finit mal, hein, vous le disiez, au verset 11.
Je propose de citer un autre passage parce que je vois le temps qui passe. On s'était dit qu'on parlerait de Dieu et de la violence. Donc, en dépit de tous ces appels, de toutes ces images et admonestations du prophète Jérémie, qui semble-t-il, enfin quand on le lit, donc quand on lit sa vie, une vie extrêmement compliquée, a été arrêté, je crois même emprisonné. Enfin voilà, en gros, ses contemporains lui menaient la vie dure. Il ne cesse de dire que Yahvé en fait va les punir. Alors comment comprendre ce Dieu violent ? Je citerai juste un passage, c'est au tout début. C'est chapitre 1, 10. Vois aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter, etc., etc. Tout le livre de Jérémie est une espèce, on a l'impression, d'immense menace. Dieu va vous punir, va vous punir parce que vous ne le suivez plus. Et il se trouve, vous l'expliquez en contextualisant, que l'invasion de Nabucodonosor entraînera la destruction du temple de Jérusalem et autres massacres qu'on peut imaginer. Alors comment comprendre cela ?
C'est vraiment déroutant pour nous. Il faut se replacer dans le contexte il y a 2600 ans où, dans la pensée antique, rien n'arrive que Dieu n'ait voulu. Rien n'arrive si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, en quelque sorte. Vous voyez, la pensée traditionnelle, de ce point de vue-là, ne fait pas forcément une distinction explicite, en tout cas pas tout le temps, des causes. Nous, on a l'habitude en philosophie de dire que même si Dieu est la cause première de tout ce qui se passe, il passe aussi par des causes secondes qui, sans être nécessairement indépendantes de sa volonté, ont aussi leur autonomie. Or ici, Nabucodonosor est présenté comme un outil dans la main du Seigneur. Alors c'est assez traditionnel dans la Bible, à vrai dire. On avait déjà dit ça des Assyriens au 8e siècle. Et ils étaient vraiment des guerriers sanguinaires. Or, Dieu dit, vous avez raison de citer ce passage de la vocation de Jérémie, je t'envoie pour arracher et démolir, pour exterminer, et puis il y a aussi pour bâtir et pour planter. Mais en fait, ces verbes, qui sont surtout destructeurs, même s'ils ne le sont pas seulement, décriront dans plusieurs passages, je crois qu'ils sont 6 ou 8 encore, dans l'ensemble du livre, non plus l'action du prophète, mais l'action de Dieu lui-même. C'est-à-dire que le Dieu de Jérémie, même s'il n'est pas que cela, il est aussi un Dieu qui promet une espérance, nous y reviendrons, mais il est celui qui fait du mal, qui arrache, mais on pourrait dire aussi qui arrache les mauvaises herbes.
Enfin, c'est une drôle de manière d'arracher les mauvaises herbes que de servir de Nabucodonosor comme de son instrument. Parce que si on transpose à une époque plus contemporaine...
C'est extrêmement, extrêmement dérangeant pour nous de voir comment, y compris à travers le mal qui n'est jamais approuvé dans la théologie, pourtant, le croyant parfois reçoit de pouvoir trouver non pas un sens au mal, mais de pouvoir trouver quels sont les fruits que vont pouvoir porter des mauvaises situations. Ce qui n'est pas la même chose que de justifier l'injustifiable. Est-ce que vous permettez qu'on lise au chapitre 17, le verset 10 ? C'est un passage qui nous dit quelque chose de la mentalité biblique, d'un trait théologique important. Moi, le Seigneur, alors on dit plutôt le Seigneur que Yahvé, hein, c'est aussi par respect et par amitié pour nos frères juifs, mais en se disant, comme on ne sait pas comment prononcer exactement le nom divin, on a pris l'habitude maintenant dans la lecture publique de dire le Seigneur. C'est le cas d'ailleurs dans la nouvelle traduction liturgique. Alors je ferme la parenthèse, donc Jérémie 17, 10. Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins, et c'est là que c'est important, pour donner à chacun selon sa conduite, selon l'expression percutante, selon le fruit de ses actions. Alors nous comprenons que le malheur dont parle Dieu, qu'on peut traduire aussi par châtiment, le mal que Dieu est dit accomplir dans le prophète Jérémie, même si c'est par la main de Nabuchodonosor, c'est le fruit d'un autre mal. Et en fait, c'est la malice qui est dans le cœur de l'homme, c'est la méchanceté de ses intentions et de ses actions. Et alors on comprend dans cette théologie de la rétribution, qui n'est pas le dernier mot de la théologie, mais qui est quand même très présente, que pour les prophètes, si un malheur arrive, c'est parce que le Seigneur va s'en servir pédagogiquement pour conduire le méchant à se convertir.
Voilà pour les grands traits qu'on pouvait dégager du prophète Jérémie. On va faire une deuxième pause et puis après on va essayer de faire atterrir ça dans nos vies. Voilà, après cette rapide introduction, ces quelques points les plus saillants, comment Jérémie peut-il nous parler à nous aujourd'hui, auditeurs de Radio Présence. Je rappelle juste le titre de la prochaine session de l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, Jérémie, champion de la conversion, les 12 et 13 avril prochains. Jérémie, champion de la conversion, c'est donc pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, avec Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse et auteur d'une thèse sur ce prophète. Dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais qu'on essaye de, on va dire, faire atterrir le sujet et de voir quels échos ça peut trouver dans nos vies. Je m'étais noté une première chose. Quel parallèle feriez-vous entre notre époque et cet appel à la conversion que Dieu adresse à son peuple à travers ce prophète? Je lirai juste un passage. À qui dois-je parler, devant qui témoigner pour qu'ils écoutent? Voici, leurs oreilles est incirconcises, ils ne peuvent pas être attentifs. Voici, la parole de Yahvé leur est un objet de raillerie. Aujourd'hui, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, vous auriez parlé de Dieu dans n'importe quel, dans un certain nombre de bistrots, ne serait-ce qu'à Toulouse ou ailleurs. Je suis pas sûr que ça n'attirerait pas justement des railleries, c'est-à-dire que Dieu s'adresserait à eux potentiellement avec les mêmes termes. Était-ce juste pour l'époque de Jérémie?
Et bien sûr qu'il faut continuer à parler de manière audible. On peut essayer, quand c'est nécessaire, de ne pas trop braquer son auditoire, mais il est vrai que quand Jérémie va dans le temple du Seigneur et dit « Vous dites le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur », mais tout ça va être détruit. Alors les gens ont failli le tuer. Finalement, Jérémie a été effectivement protégé, il n'a pas été exécuté. Il est mort en Égypte, il avait juste dit aux gens « Surtout ne vous alliez pas avec l'Égypte, mais acceptez maintenant la domination babylonienne ». Il y a des prophètes aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de manière audible. Alors,
c'est pas trop la méthode du pape François. Je veux dire, il passe pas son temps à admonester le monde comme cela.
Quand même. Écoutez, nous étions avec le séminaire en pèlerinage à Rome il y a quelques années. Et dans la catéchèse du mercredi, il avait dit, en commentant un texte d'Isaïe chapitre 1, il avait dit « À tous les gens qui donnent de l'argent mais qui l'acquièrent de manière malhonnête, je dis... brûlez plutôt vos billets. » Et alors, notre monde est friand d'images. Je dois dire que un pape qui écrit une encyclique sur l'écologie, c'est quand même important. Il y a sans doute là quelque chose de prophétique. Maintenant, la difficulté avec les prophètes, c'est qu'ils vous disent « convertissez-vous ». Alors, ça sera peut-être comme avec Jean-Paul II, où les gens diront « on aime bien le chanteur, mais pour la chanson, eh bien, elle est trop exigeante ». Voilà. Alors, j'avoue que comme prophète d'aujourd'hui, qui me semble parler de manière plus ou moins directe et audible, c'est vrai que le langage d'aujourd'hui est beaucoup audiovisuel. Les gens, parfois, avec une image, avec une petite vidéo, sont extrêmement touchés. Je me rappelle, je crois que cette jeune fille s'appelle Mahalala, qui a eu le prix Nobel de la paix, et qui a fait un discours à l'ONU, avec quoi, 17 ans ou 19 ans peut-être, et avec un crayon, elle avait un stylo en disant « Notre arme, c'est l'éducation. Et avec ce crayon, j'ai le pouvoir de changer le monde. » Je pense aussi à un Anglais qui, après sa carrière militaire, a fondé un mouvement pour les jeunes, et c'est Baden-Powell qui a fondé le scoutisme. Je trouve qu'il y a là quelque chose de prophétique. Il y a aujourd'hui, je crois, 50 millions de jeunes dans le monde. On peut faire quelque chose, parfois il faut aller à rebours des usages, ou trouver le mot, l'image qui touche les gens. Vous voyez, Madeleine Delbrel, qui vient d'être déclarée vénérable par le pape François.
Redites en quelques mots qui est Madeleine Delbrel.
Madeleine Delbrel, donc cette laïque du milieu du XXe siècle, qui est restée célibataire, qui a voulu vivre en communauté avec d'autres femmes qui partageaient sa vie au milieu du monde, vraiment au milieu du monde. Et en l'occurrence, elle a décidé de s'installer avec ses compagnes dans une banlieue communiste à Ivry, où elle était assistante sociale. Elle a même été responsable des services sociaux de la mairie pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, elle témoigne aussi, preuve qu'elle a su non seulement collaborer pour ce qui était possible avec les communistes, mais aussi poser un certain nombre de questions et donner ses références, c'est-à-dire les paroles du Christ. Je pense qu'elle n'a pas dû être toujours bien reçue. Elle témoigne aussi, et je suis très touché en parcourant ses écrits, elle témoigne de la force de la prière. Tout simplement. Et c'est peut-être prophétique de redire cela aujourd'hui, entre autres.
Alors, je m'étais noté un ou deux autres points. Le premier, c'est que quand on voit Jérémie, ou en tout cas ce que vous nous en avez dit, ou quand on lit ce livre de Jérémie, on peut se dire que Dieu a une prédilection pour... alors, les timides, je sais pas, mais un peu pour les exclus, pour ceux qui sont blessés. Voilà, Jérémie, on sent que c'est un homme extrêmement sensible, qui a une mission redoutable et qui est presque... que Dieu ne regarde pas comme lui se voit. Il se voit comme très pauvre, peut-être aujourd'hui on dirait très blessé peut-être, et pourtant Dieu lui accorde une immense confiance. Quel écho ça peut trouver pour...
Jérémie est un homme qui a souffert, et d'ailleurs, quand on dit dans l'évangile que certains prenaient Jésus pour Jérémie qui serait revenu, c'est peut-être aussi en préfiguration déjà de la passion de Jésus. Alors au chapitre 20 de Jérémie, où il se dispute avec un prêtre, c'est le dernier des textes qu'on appelle les confessions de Jérémie. Et Jérémie se plaint à Dieu, il dit « Tu m'as séduit, Seigneur ». Tu m'as saisi et tu l'as emporté. Écoutez, pour dire que Jérémie va bien avec les souffrants parce qu'il en est, je suis objet de risée. Tout le jour, Tous se moquent de moi. » Et il avait même pensé arrêter son ministère de prophète. Il dit, « J'ai dit, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était dans mon cœur comme un feu brûlant. » On dit quelquefois comme de la lave. Enfermé dans mes os. Et encore, j'entendais les méchants propos de la foule, terreur de toutes parts, dénoncer, nous le dénoncerons. Et même, tous mes amis intimes guettaient ma chute. Alors, il y a sans doute des témoignages de grande souffrance, on pense à Job, on pense à certains cantiques aussi du serviteur dans Isaïe, mais Jérémie est aussi l'ami de tous ceux qui souffrent, qui n'en peuvent plus, et que Dieu soutient. Jusqu'au bout.
Et à qui Dieu fait confiance aussi parfois et qu'il confie une mission particulière. Est-ce qu'on peut dire ça aussi?
Oui, une mission que personne ne peut contrecarrer. Alors je trouve que c'est effectivement un grand secours pour nous. Quelquefois nous nous trouvons dans l'adversité et il faut relire le récit de la vocation de Jérémie au chapitre 1, c'est extraordinaire. Et dans cette confession du chapitre 20 où nous étions, il dit aussi, verset 11, « Le Seigneur est avec moi comme un héros redoutable. Mes persécuteurs trébucheront au lieu de l'emporter. Ils seront tout honteux de n'avoir pas réussi. Confusion éternel, inoubliable. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme de l'indigent, de la main des malfaisants. » Vous savez, il y a beaucoup de liens entre Jérémie et la prière des psaumes. Et c'est extraordinaire. Quelle force!
Pour finir, le peuple hébreu avait écouté Jérémie, son sort eût-il été différent? Et que dire aujourd'hui? On peut avoir parfois une vision assez fataliste du cours de l'histoire, et on en parle de temps en temps à cette antenne, peut-être le fait d'être abreuvé de nouvelles et souvent mauvaises peut contribuer à ce sentiment d'écrasement. Peut-il en être autrement?
Jérémie donc est présenté comme le saint patron, si on peut dire, des vocations douloureuses. Alors, on ne va pas dire que la vie est facile. Et par contre, le témoignage, vous voyez, ces personnages que je citais, en fait, montrent que nous pouvons effectivement changer quelque chose au monde où nous vivons. Le pape François n'est peut-être pas entendu par tout le monde, mais il nous donne l'invitation à une conversion vers une écologie humaine intégrale. Par l'éducation, par la prière, en faisant le bien, nous sommes aussi vainqueurs du mal, et ça c'est à la portée de tous. Avec la grâce de Dieu, on peut des merveilles, comme Jérémie qui n'a pas failli.
Merci beaucoup Père Cyprien Comte d'être venu donc au micro de Vivante Église. Je rappelle une dernière fois le titre de cette session, Jérémie champion de la conversion, pour ceux qui voudraient aller plus loin. C'est donc organisé par l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, un site internet www.ict-toulouse.fr. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.